Nouveau rendez-vous avec Nicolas du groupe Ici c'est Brest, collectif de supporters du club du Stade Brestois que l'on peut retrouver sur la page Facebook Ici c'est Brest, un collectif qui rassemble pas loin de 22 000 fans du Stade Brestois. Bonjour Nicolas.
Bonjour Pierre-Yves, bonjour à tous.
Et on retrouve également Fred qui est avec nous puisqu'on parle de sport. C'est pas vraiment un LEM sport, mais bon, on termine l'année quand même avec l'actualité du Stade Brestois.
Ouais, tout à fait Pierre-Yves, bonjour à tout le monde.
Alors Nicolas, on va revenir avec toi sur plein de choses, sur ce qui remue en ce moment le Stade Brestois, mais on va peut-être rebondir sur le tout chaud, la dernière semaine du Stade Brestois qui a enchaîné Ligue des Champions et Championnat de manière... je te laisse au choix. Alors justement, t'es soulagé, émerveillé, surpris après cette semaine ?
Voilà, c'est un mélange de plein d'émotions, hein, puisqu'on est passé un peu par tous les états. Le match contre le PSV, alors forcément le résultat est génial avec cette victoire 1-0, mais il faut quand même rappeler que Brest a été dominé la plupart du temps, hein, durant ce match. Il y a eu des gros temps forts de la part des Hollandais, avec un énorme Marco Bizot, et puis ce but, on va dire, salvateur, libérateur de Julien Le Cardinal. Donc voilà, on n'aurait pas tous misé sur une victoire du Stade Brestois contre le PSV, surtout au vu de la dynamique en championnat. Et puis ensuite, c'est une semaine parfaite puisque rebelote avec la victoire contre Nantes en Ligue 1. Donc c'est la semaine vraiment parfaite pour le Stade Brestois. C'est vraiment une belle manière de terminer cette année 2024. Il va rester le match de Coupe de France.
Il reste un match quand même, effectivement.
Exactement, la Coupe de France contre La Roche-sur-Yon. On verra si la tradition brestoise est respectée en Coupe de France avec une petite élimination en 32e de finale. Mais comme ils sont sur une bonne dynamique, pourquoi pas ?
Alors ouais, donc Brest se déplace à La Roche-sur-Yon.
La logique voudrait que oui, mais bon, ceci dit, il y a beaucoup d'absents aussi côté brestois, beaucoup de blessés. Donc on verra un petit peu quelle équipe va être alignée par Éric Roy. Là, il va avoir quelques choix à faire, peut-être aussi quelques jeunes à lancer, je pense à Camblanc par exemple. Ce sera le retour d'Ajorc là, qui revient de 2 semaines de repos, puisqu'il était suspendu à la fois en Ligue des Champions et en Ligue 1. Donc voilà, il va falloir aussi jouer avec les blessures, et puis peut-être des joueurs aussi qui pourront être à relancer, parce qu'on aura besoin de tout le monde en 2025.
Et est-ce que justement on sait si avec le mercato d'hiver qui approche là, est-ce qu'on sait si le club souhaite aussi acheter d'autres joueurs ou voilà récupérer des joueurs qui sont peut-être déjà partis il y a pas longtemps qui veulent revenir ?
Bah là pour l'instant on parle surtout du poste de défenseur central, comme c'était un petit peu compliqué en début de saison, il y a eu beaucoup de buts encaissés, hein. Ils sont déjà il me semble à 27 buts encaissés en championnat. Ceci dit là sur ces deux derniers matchs, il y a un joueur qui a réussi à tirer son épingle du jeu, là, c'est Ndiaye, hein, qui est prêté cette saison et qui a fait deux gros matchs. Il a terminé le match du PSV, c'était son premier match de Ligue des Champions, avec 7 points de suture sur le pied. C'est vraiment un guerrier et il a réussi à pouvoir faire encore une grosse performance contre Nantes. Donc voilà, le poste le plus prioritaire, je pense que c'est défense centrale. Après, peut-être qu'au niveau des latéraux aussi, il y aurait des besoins. Kenny Lala a prolongé, donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Luc Zogbe, il a fait des bonnes apparitions aussi. Et puis après, côté gauche, c'est un peu plus compliqué entre Aïdara et Amavi. Donc peut-être éventuellement un latéral ne ferait pas de mal. Et pourquoi pas un attaquant pour le banc, peut-être. Voilà. Mais pour l'instant, je pense que l'effectif est quand même assez garni. Peut-être aussi un milieu défensif, comme Pierre Lesmelou est blessé. Mais on a vu là sur ces deux derniers matchs que Eddy Milson Fernandez faisait vraiment bien le travail. Un peu un travail de l'ombre. Donc je pense que pour l'instant, le Stade Brestois est quand même plutôt rodé. Et puis, niveau départ, pour l'instant, ça n'a pas l'air non plus de s'affoler beaucoup.
Et couteau suisse aussi pour l'occasion, hein, parce qu'il a joué aussi latéral droit, si je ne me trompe pas, contre Eindhoven.
Oui, effectivement, il a joué latéral droit suite à la blessure de Julien Le Cardinal. Alors effectivement, l'appellation couteau suisse tombe à pic. Et il y a un autre couteau suisse, là c'est plutôt le couteau portugais, que j'aimerais citer, c'est Mathias Pereira-Lage, puisqu'à chaque fois que le coach fait appel à lui, c'est des grosses performances, des passes décisives, un but hors-jeu contre le FC Barcelone. Voilà, donc là, le véritable couteau suisse de l'équipe, pour moi, c'est Mathias Pereira-Lage, qui fait toujours de très belles entrées. Il a encore fait une passe décisive là, pour Abdelhassima contre Nantes, donc chapeau à ce joueur, là c'est vraiment... le fameux joueur de devoir, comme disait Alex Dupont, feu Alex Dupont. Voilà, donc voilà, un petit hommage aussi pour Mathias Pereira. J'espère qu'il sera prolongé, puisque c'est vraiment un bon joueur de complément qui donne tout et qui a su se montrer décisif sur ses apparitions, ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps de Romain Fèvre, par exemple. Donc voilà, quand on parle d'engagement, d'implication, on peut penser à Mathias Pereira.
Alors, bah, t'évoquais la Ligue des Champions. Brest a battu le PSV Eindhoven, leader quand même du championnat des Pays-Bas. Le mois de janvier, côté brestois, risque d'être assez intense. S'il y a qualification en Coupe de France ce samedi, ça risque de faire 7 matchs. Il va y avoir donc un sacré programme qui va attendre les Brestois, probablement, en janvier. La Ligue des Champions, on peut même espérer se qualifier directement pour le 8e de finale. On en est là, quoi. Truc de fou.
Oui, il y a deux matchs, on le rappelle. Hein, le 21 janvier contre le Shakhtar Donetsk, un déplacement. Et après, le 29 janvier, on reçoit le Real au Roudourou. Donc, joli programme.
Ouais, c'est complètement un programme improbable de penser qu'il est possible de se qualifier en 8e de finale. Et je pense qu'il y aura un match complètement abordable en Allemagne, là, à Gelsenkirchen. Contre le Shakhtar Donetsk, donc ouais, ça serait vraiment quelque chose d'assez fabuleux. Là, le seul problème, c'est que ça se joue entre guillemets sur terrain neutre en Allemagne, donc il y aura pas beaucoup de fans du club ukrainien. Il y aura peut-être pas non plus tant que ça de Brestois. Niveau ambiance, ça doit pas être fou. Mais en tout cas, par rapport au résultat là du Shakhtar, je pense qu'il y a des choses à faire. Ils ont l'air de prendre pas mal de buts, donc il y a peut-être moyen d'aller chercher un résultat et éventuellement une qualification. Là, ce serait vraiment exceptionnel.
Parce que si y a victoire contre le Shakhtar, les probabilités d'être qualifié directement pour le top 8, elles augmentent sérieusement quand même? Ou il faudra passer nécessairement par un bon résultat face au Real?
Ah bah, je pense que ce sera un résultat à confirmer avec un petit nul, hein, face au Real, qui n'est pas non plus dans le plus grand de sa forme. Hein. Voilà, ils ont un peu du mal en championnat. Ils ont fait match nul là dernièrement contre le Rayo Vallecano, 3-3. Voilà, avec un Mbappé qui s'est un petit peu blessé, qui n'est pas non plus très performant. Donc voilà, j'espère que Brest ne servira pas de club qui puisse le permettre de se relancer. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on espère.
Par rapport à ce Brest-Real Madrid, les places sont parties très très vite hier, il me semble, non ?
Oui, alors en théorie pour les matchs de Ligue des Champions, donc les abonnés évidemment qui ont acheté leur pack ont leur place, il n'y a pas de souci, c'est pas du tout remis en cause. Et ensuite, ils ont la priorité d'achat, jusqu'à 2 places par abonné pour voilà, faire profiter les enfants ou la famille. Et donc là, les places sont parties très vite. Alors honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de places mises en vente. Je connais très peu de personnes qui ont réussi à avoir leur place. À mon avis, il y a pas mal de places qui ont été distribué ou vendu même aux partenaires, bon, ce qui peut se comprendre aussi, hein, puisque sans partenaire, c'est dur d'avoir un club de foot actuellement. Donc c'était à prévoir, hein, c'était sûr qu'il n'y avait pas à avoir de vente grand public pour ce match-là, ça c'était une évidence. Voilà, donc en plus on ne peut pas non plus agrandir le Roudourou, donc on sera très très nombreux à voir le match depuis la télé.
Ce sera ton cas ?
Ce sera mon cas, oui, tout à fait. Oui, moi, j'ai même pas cherché à avoir de place. Je savais très bien que j'en aurais pas. J'ai fait mon deuil de ça dès le départ. Mais je suis très content d'avoir pu voir le match contre à la fois Sturm Graz et puis le PSV, hein, puisque le PSV, à l'époque du Grand Lyon, dans les années 2010, etc., là, c'était une belle affiche, hein, Lyon-PSV Eindhoven. Donc voilà, on a quand même réussi à battre ce club. C'est quand même assez impressionnant.
Et on parlait tout à l'heure de qualification, si on se qualifie, il y a la question du stade aussi. Et je vois dans le programme de janvier, par exemple, qu'on va jouer le Stade Rennais, donc au Roazhon Park, du coup, le 19 janvier, donc juste avant le déplacement en Ligue des Champions. Donc ça va être aussi un joli derby breton à regarder de près.
Ouais, et puis c'est là que la gestion de l'effectif va être très importante. Hein. Pourquoi pas un petit remake du 5-4 de l'année passée, là, ce serait sympa. Mais c'est vrai que là, on va voir un petit peu la capacité d'Éric Roy à gérer son effectif. Parce que bon, les blessures, il n'y peut pas grand-chose. Mais là, dans la rotation, il va falloir vraiment être très, très pointilleux pour essayer d'en ménager certains. On a vu le réveil d'El Castillo, ça c'est vraiment une très bonne nouvelle, la confirmation de Sima, et là je trouve que par exemple Baldé est un peu moins bien. Donc voilà, il va falloir faire avec les états de forme et puis garder toujours l'équipe la plus performante sur le terrain.
Et par rapport à cette histoire-là de faire jouer Brest au Stade de France, quel est ton point de vue, Nico, et peut-être plus largement celui des supporters de la page Ici c'est Brest ?
Bah, moi, je trouve ça un petit peu en déconnexion avec l'esprit actuel. C'est-à-dire que là, on fait une heure de route pour aller à Guingamp, on y est, on déplace tout un stade, Roudourou est rempli. Bon, par contre, je pense qu'on se voit un peu beau d'aller jouer au Stade de France. Même s'il y a beaucoup de Bretons effectivement qui vivent à Paris, j'ai un peu du mal à imaginer un Stade de France rempli pour aller voir le Stade Brestois, surtout si on joue le Dynamo Zagreb, hein, je dis ça au pif. Mais bon, ça fait un peu loin. Financièrement, ça peut être aussi un peu compliqué d'aller jusqu'à Paris, prendre le train, prendre la voiture, prendre le car, bon, l'avion. Voilà, c'est un petit peu compliqué aussi à organiser. Donc moi, je suis plus partisan de jouer donc soit au Roudourou avec des aménagements qui doivent être faits parce qu'il faut répondre aux normes de l'UEFA, soit au Roazhon Park. Qui est un petit peu plus grand. Et donc là, ça permettrait de réunir encore plus de monde. Donc moi, je suis quand même plus partisan de jouer en Bretagne. Voilà.
Ouais,
aller à Paris. Je trouve que voilà, c'est même un petit peu prétentieux. Dire oui, bon, allez, on va aller à Paris, on va remplir un stade de 80 000 personnes. Non, honnêtement, je ne pense pas.
Tout dépendra en fait de l'adversaire. Quoi.
Si, oui,
si c'est un gros nom en barrage. Bon, autant, voilà, peut-être autant voir grand.
Exactement, mais je rappelle quand même qu'il y a un collectif de supporters, la Brestonnaire, qui a lancé une pétition, hein, et donc cette pétition a beaucoup de succès pour que le match ne se joue pas au Stade de France. Hein. Donc là, le match au Stade de France, c'était plutôt une idée du président Denis Le Saint.
Oui, parce que Chardonnay, le capitaine, il s'est positionné d'ailleurs pour dire que lui n'était pas favorable. Alors, on a aussi dans l'actualité, justement, la question du stade. Soit refaire Francis Lebey, soit faire un nouveau stade. Et je crois que l'Arkéa Park, d'ailleurs, et a priori, c'est en bonne voie. Il y a encore des dissensions au niveau politique, mais le projet semble bien mûrir.
Oui, c'est enfin un projet qui devrait aller à son terme, puisque ça fait déjà plus de 30 ans qu'on nous parle d'un nouveau stade. On a bien vu que ce n'était pas faisable de rénover Francis Leblay, puisqu'on est en plein centre-ville, il y a des logements à côté, il y a l'école Charles de Foucault qu'on ne va pas pouvoir détruire non plus. Et quand on a des matchs à domicile, c'est toute une logistique. Il faut vraiment pousser les murs, hein, puisqu'il y a le centre médical à mettre du côté de Charles de Foucault. Il y a vraiment pas mal d'aménagements à faire, c'est vraiment très contraignant. Donc effectivement, la question du nouveau stade, elle se pose même plus. Enfin, c'est vraiment obligatoire maintenant d'avoir un nouveau stade, d'avoir un équipement moderne. Et puis, comme c'est rappelé dans le communiqué, c'est pas un stade qui va servir simplement pour 17 journées de championnat. Bien au contraire, c'est un stade qui servirait d'équipement pour la collectivité toute l'année. Donc, avec différents événements, avec des activités, avec de la restauration, avec des crèches, etc. Donc, c'est pas simplement un stade de foot. Hein, c'est vraiment un équipement pour divers événements. Donc, c'est aussi un plus pour la ville et pour la métropole.
Et est-ce que tu peux nous dire justement où il serait situé ce stade?
C'est dans la zone du Frouthven, donc on est entre Brest et Guipava, on n'est pas loin de la 4 voies, on n'est pas loin non plus des arrêts tram. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de gens, il faut le savoir, hein, qui viennent voir les matchs du Stade Brestois. Ils ne sont pas forcément de Brest, hein. Il y en a qui viennent...
Ouais, le communiqué du Stade Brestois rappelait que c'était quasiment 70% de spectateurs hors agglomération brestoise.
Exactement, donc il y en a qui font 30, 45, voire une heure de route à chaque fois pour aller voir le match.
Ah bah
c'est des gens qui viennent de Saint-Paul-de-Léon.
Ou de Crozon.
De Crozon, évidemment, donc ça les arrange d'avoir un stade en bordure de la 4 voies. Ça évite de rentrer au centre-ville où il y a un sérieux problème aussi de stationnement. Donc là, on espère aussi que ça va régler ce problème-là. Ceci dit, on dit que le projet est fait pour que les gens viennent en tram. On ne va pas se leurrer, les 70% qui viennent de l'extérieur de la ville ne vont pas venir se garer en périphérique pour ensuite aller prendre le tram et venir au stade. Donc il y aura aussi un problème de stationnement et je pense que ce sera le même problème de toujours.
Et on sait à peu près, vous savez à peu près, vous avez une idée de quand ce stade serait livré?
Au début, ils avaient dit 2027, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, ça prend du retard, donc peut-être 2028. Voilà, donc ça va prendre du temps. Et on va déjà attendre que la première pierre soit posée. En tout cas, le projet, il est bien construit, il a été présenté, il a séduit les différents acteurs, les partenaires privés, les institutions publiques aussi.
Et les supporters.
C'est quand même bien lancé.
Et les supporters, du coup, Nicolas?
Oh, les supporters, j'ai l'impression que, on va dire, à 80%, ils sont favorables à l'arrivée de ce nouveau stade-là. Après, il y a toujours les nostalgiques du stade Francis Leblay, mais je pense qu'il est important aussi de voir le côté pratique. Hein. L'expérience foot, quand on vient à Francis Leblay, honnêtement, à moins d'être en Foucault, et encore, c'est pas génial. Hein. On a des tribunes qui sont très vieillissantes, on a des tribunes qui sont même pas en béton pour certaines, il y en a qui n'ont pas de toit. Enfin voilà, c'est compliqué. Il faut, à ce jour-là, il faut le vouloir pour venir voir un match de foot au stade Francis Leblay, hein, même si c'est un stade qu'on adore évidemment, puisqu'il a son charme et puis qu'il est au centre-ville.
Quand on est brestois.
Et quand on est brestois, évidemment.
Moi, j'avais une petite question encore, si on a quelques minutes, Pierre-Yves, je ne sais pas.
Vas-y, vas-y.
Tu évoquais les difficultés au niveau de la section féminine la dernière fois. Je voulais savoir si de ta place, tu avais pu voir des changements ou quel en était aujourd'hui de l'équipe féminine.
Ah bah on fait bien d'en parler puisque ça n'avance pas, malheureusement. L'entraîneur Gaëtan Abjon a démissionné. Voilà, donc il se retrouve sans entraîneur. Il y a un nouvel entraîneur qui a été nommé. C'est le préparateur physique du groupe qui a pris la tête de l'équipe. Donc voilà, c'est un mouvement un petit peu bizarre. Depuis qu'on s'est parlé, elles ont simplement gagné un match, donc elles sont toujours dans les bas-fonds du championnat de Détroit. Voilà, donc ça n'avance pas beaucoup. On peut même dire que d'année en année, ça régresse. On peut être assez inquiet pour cette session féminine. Moi, je me demande si ça va pas couler, tout simplement, puisque la gestion est absolument calamiteuse. Il y a 2-3 saisons, l'équipe elle jouait en D2, il y avait de bonnes joueuses, il y avait un bon coach, c'était bien structuré. Et puis petit à petit, il y a eu des polémiques qui se sont installées, il y a eu la descente, il y a eu des joueuses qui ont été logées dans un logement insalubre. Et voilà, maintenant les résultats qui ne suivent pas. Donc voilà, c'est un peu la suite logique malheureusement de cette gestion-là. Et il faut rappeler hein, que ça n'a rien à voir avec la gestion professionnelle du Stade Brestois, puisque en fait c'est l'association du Stade Brestois qui gère cette section féminine. Donc on peut pas non plus faire des comparaisons avec l'équipe professionnelle.
Alors tant qu'on parle d'autres équipes avec le beau logo SB29, les jeunes du Stade Brestois ont participé cette saison, dû à la qualification de l'équipe Fagnon en Ligue des Champions, les jeunes ont participé à la Youth League. Tu as eu l'occasion de suivre les matchs et la compétition ?
Non, alors j'ai pas eu l'occasion de voir les matchs, j'ai regardé un petit peu les résumés. On sait bien, ils ont eu l'expérience de jouer contre des gros collectifs avec d'énormes centres de formation, des centres de formation très performants. Hein. Peut-être que dans quelques années, ils se rendront compte qu'ils ont joué contre la future pépite de grands clubs européens. Voilà. Alors, Brest n'a pas été ridicule hein, pendant ces matchs-là. Bon, ils ont terminé avec très peu de points. Et donc, ils ont été éliminés, tout simplement. On ne peut pas dire qu'ils aient été au niveau. On ne pouvait pas non plus leur exiger d'aller battre des équipes comme Barcelone, comme le Real. Voilà. Mais en tout cas, c'est une super expérience. Certes, il y avait en général 2-3 classes d'écart, mais quand même, c'est bien dans leur parcours de formation d'avoir pu jouer la Youth League. Ça, c'est aussi une belle récompense pour les jeunes brestois.
Ouais, puis ça fait de l'expérience pour des jeunes qui justement vont intégrer souvent le groupe pro après. Et voilà, comme tout est exceptionnel en fait cette année, à tous les étages du club finalement on voit que il y a des découvertes et puis de l'apprentissage quoi.
Oui, et puis c'est aussi une manière de voir un petit peu comment fonctionnent les autres centres de formation dans d'autres pays aussi, et d'échanger des méthodes, des manières de faire, des visions aussi. Ça peut être intéressant, oui.
Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Nicolas, pour toutes tes réponses. On rappelle, tu es membre et animateur de la page Ici c'est Brest, un collectif de supporters brestois. Et qu'est-ce qu'on espère pour 2025 à la fin de la saison ?
Eh bien, on va dire à minima les barrages, éventuellement les huitièmes de finale, aller le plus loin possible en Ligue des Champions, passer quelques tours éventuellement aussi en Coupe de France, ça pourrait être sympathique, hein, même si on sait que la tradition brestoise a souvent tendance à se répéter, et puis surtout un maintien, allez, on va dire un maintien serein, peut-être aller, si on est vraiment optimiste, une septième, huitième, sixième place, pourquoi pas, ouais, ce serait sympa.
La Conférence Ligue.
La Conférence Ligue, pourquoi pas ? Ça pourrait être une bonne idée.
Eh bien, merci beaucoup, Nicolas. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous. On refait le point dans 2-3 mois.
Avec plaisir. À bientôt.
Ciao, ciao.